VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous pour développer l'actualité. Nous sommes le 11 septembre 2015. 12 heures à Washington. Commençons son journal par le Burundi. Le numéro 1 de l'armée burundaise a échappé aujourd'hui à une embuscade tendue par des hommes en tenue militaire en pleine Bujumbura, un mois après une attaque similaire ayant coûté la vie à un homme clé du régime. L'attaque a fait 7 morts selon un haut responsable de la police. 4 membres de l'escorte du général Primenio Ngabo, 2 assaillants et une policière. Selon des sources sécuritaires, les 2 assaillants tués ainsi qu'un 3e blessé et arrêté sont des militaires en activité. Le général de Niongabo est considéré comme un dur du régime et un de ceux ayant permis la mise en échec de la tentative de coup d'état militaire des 13 et 14 mai au Burundi. Une partie des anciens putschistes a pris le maquis avec l'intention avouée de renverser M. Nkurunziza. Par ailleurs, une commission d'enquête a accusé les principaux dirigeants de l'opposition et de la société civile d'avoir initié la contestation contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, qualifié de mouvement insurrectionnel et d'être lié aux meneurs de la tentative de putsch de mai. Et à propos justement de cette embuscade contre le chef d'état-major de l'armée, le porte-parole militaire vient de tenir un point de presse dans lequel il a précisé le bilan des morts. Il s'agit de 6 personnes, dont 5 militaires. Vous aurez à suivre les détails dans notre journal de 13 heures. Au moins 7 personnes ont été tuées, 20 blessées dans une explosion dans un camp de personnes déplacées par le conflit avec le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, annoncé aujourd'hui l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA au Nigeria. Il y a eu une explosion au camp de déplacés de Malkori à Yola vers 11h, 10h temps universel, affirmé un responsable de la Croix-Rouge, Aliou Makano. La police de l'état d'Adamawa, dont Yola est la capitale, a confirmé l'explosion. Et l'ONU a autorisé l'audition de son employé qui avait rédigé un rapport sur des accusations de viol portées par des enfants centrafricains contre des militaires français, selon de sources judiciaires. Les Nations Unies ont accepté la levée d'immunité juridictionnelle dont jouit la rédactrice du rapport afin qu'elle soit entendue comme témoin, a expliqué la source. Cette audition devra se dérouler en présence d'un représentant du général, du secrétaire général Ban Ki-moon, a-t-elle précisé. Et la Guinée va mobiliser plus de 18 000 hommes, pour l'essentiel des policiers et des gendarmes. Objectif, assurer la sécurité de la campagne de l'élection présidentielle du 11 octobre, a annoncé aujourd'hui un responsable de la police. La campagne s'est ouverte jeudi et doit s'achever le samedi 10 octobre à 0h temps universel, c'est-à-dire à minuit. Amnesty International, dans un communiqué, appelle les autorités à pleinement respecter le droit à la liberté de réunion pacifique et veiller à ce qu'une force excessive ne soit pas utilisée contre les manifestants et les autres citoyens durant le processus électoral. Les opposants ont organisé ces derniers mois des manifestations meurtrières. Et à Goma, en République démocratique du Congo, au moins 6 rebelles ont été tués hier dans le territoire de Beni, l'est de la République démocratique du Congo, par l'armée qui a riposté à une attaque contre une de ses positions. Et au Burkina Faso, 14 des 16 candidats qui avaient été présélectionnés ont été retenus pour l'élection présidentielle du 11 octobre au Burkina Faso, donc par le Conseil constitutionnel qui a écarté 2 comparés, dont Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, de la liste définitive publiée jeudi à Ouagadougou.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Fonds monétaire international a tenu à réitérer son engagement à appuyer le Libéria, dont l'économie se remet toujours de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Camille Grodidier a les précisions.
On sait que le FMI a déjà fait une entorse à ses règles pour aider les trois pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mais jeudi, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, s'est engagée à faire davantage. Au terme d'entretien à Monrovia avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Madame Lagarde a salué les efforts héroïques du Libéria face à la maladie. Le Libéria est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à se déclaré début septembre, libre du virus qui a fait environ 4 800 morts sur plus de 11 000 cas en 18 mois. Alors que la croissance plafonnait aux alentours des 8 % avant la crise, elle est en chute libre depuis. Le FMI a déjà fourni environ 130 millions de dollars en nouveaux financements et en allègement de la dette au Libéria, a rappelé Mme Lagarde. Vous disposez d'une feuille de route, vous avez un plan et nous voulons coopérer avec vous, a-t-elle dit lors d'un point de presse à Monrovia. En plus de l'épidémie d'Ebola, l'économie libérienne se ressent de la chute des prix des produits de base, du fait notamment du ralentissement de la croissance en Chine. Madame Lagarde a appelé le gouvernement libérien à accorder priorité à trois secteurs. Les infrastructures, la diversification de l'économie et les investissements dans le capital humain.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, on l'en commémore aujourd'hui le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Des minutes de silence à l'heure des attaques et des cérémonies de souvenir ont eu lieu à New York, au Pentagone et à Washington. Un survol avec Jacques Aristide.
À exactement 8h46, à l'heure à laquelle le premier avion de ligne détourné a percuté l'une des deux tours du World Trade Center new-yorkais, Barack Obama et son épouse Michelle se sont recueillis en silence ce vendredi dans les jardins de la Maison-Blanche. Puis le président américain devait se rendre dans l'après-midi sur la base de Fort Meade dans le Maryland pour y rencontrer des militaires et leurs familles. À New York, la commémoration a eu lieu à la 9/11 Memorial Plaza. Les noms des victimes, près de 3000, ont été lus par leurs familles. Recueillement ensuite au musée construit sur le site même des tours jumelles détruites par ces attentats. Au Pentagone, le secrétaire à la Défense, Ash Carter, a rendu hommage aux 184 personnes tuées lorsque l'un des quatre avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur le bâtiment de la Défense américaine. Le 11 septembre 2001, une date à jamais gravée dans l'histoire des États-Unis.
À propos, l'analyse du professeur Walid Fares, conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme.
Il y a le côté positif et il y a plusieurs côtés négatifs. Le côté positif, c'est que l'organisation initiale, Al-Qaïda, qui a attaqué les États-Unis, a perdu beaucoup. D'abord son chef et fondateur, beaucoup de ses commandants, y compris Al-Awlaki, au Yémen, pas mal de bases qu'elle avait en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays du monde. Mais elle a été remplacée par une autre force jihadiste qui, plus est, elle a... cette force qui est l'État islamique. D'un point de vue symbolique, Al-Qaïda a probablement été amoindrie, mais d'un point de vue stratégique, la force jihadiste a grandi de façon qu'elle existe maintenant dans 17 pays et qu'elle contrôle au moins deux grandes zones en Irak et en Syrie et une zone en Libye. Donc le peuple américain, le gouvernement américain, malgré les divisions entre l'administration et le Congrès, doivent s'unir et unir leurs efforts contre cette agence terroriste.
C'était le professeur Walid Fares, conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme, qui parlait des conséquences d'après le 11 septembre. Et le président ukrainien Petro Porochenko a fait part de son optimisme aujourd'hui quant à l'évolution du processus de paix en Ukraine, soulignant que le cessez-le-feu n'était plus un rêve désormais. Cette énième trêve semble pour l'heure la plus solide pendant ces sept premiers jours. Aucun militaire n'a été tué dans les combats. Et au Yémen, au moins 20 civils ont été tués aujourd'hui par l'explosion de roquettes tirées par les rebelles chiites sur un marché de la ville de Marib, à l'est de la capitale yéménite Sanaa, ont indiqué des témoins et des services de secours. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans 10 minutes. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Vous serez toujours en compagnie d'Eric Manilakiza pour le second journal. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.